Quand on fait une petite arrêt comme ça annuel, on regarde plutôt la question de la substance. De la substance, de la perfection. La question de l'être. La question aussi de la vie intérieure et de la grâce. La question de la relation. Parfois, parce que la substance, la grâce et la perfection nous stabilisent, hein, nous sécurisent. Tandis que la relation, on est en relation avec ceux qui sont proches de nous, on a coupé des relations. La relation est toujours un mélange de ce qui a été coupé, de ce qui a été tordu. C'est des désirs de retrouver des relations. Et les relations fondamentales sont évidemment les relations de paternité, de maternité et de filiation. On est père, on est mère, on est fils. Et ces relations sont troublées. C'est pour ça que c'est si peu commode de toucher à ces problèmes. Parce que on n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop ça. Par rapport à, ordinairement, quand nous nous retrouvons ici à la Canourque, on fait plutôt, on s'engage plutôt à faire une quête. On demande à l'Esprit Saint de nous aider à rentrer dans les mystères insondables pour que notre intelligence puisse sonder visiblement ces mystères et qu'on puisse commencer à les comprendre grâce à une aide qui ne vient pas de notre intelligence et qui vient de la puissance de Dieu. De manière qu'on puisse rentrer et voir enfin ce que sont ces mystères pour pouvoir faire en sorte que ces mystères transforment de l'intérieur notre pâte intérieure. La retraite s'est faite pour ça, pour qu'il y ait une transformation par la grâce. Et tout problème, c'est qu'il y ait une disponibilité spirituelle pour que la grâce puisse transformer notre manière de comprendre. Parce qu'on ramène toujours tout à notre manière de comprendre. Et une retraite, c'est fait pour justement faire en sorte qu'on puisse aller beaucoup plus loin et coopérer avec la vision même de Dieu et que nous puissions rentrer nous-mêmes en coopérant à cette vision de Dieu sur nous, sur les mystères de Dieu, sur les mystères de l'éternité, sur les mystères révélés. Et c'est pour ça, vous voyez par exemple qu'on avait déjà engagé notre cœur sur par exemple le mystère de la confession, la sponsalité, le mystère de l'Eucharistie. Bon, cette année, on peut pas faire ça. J'avais pensé que c'est pas qu'on passerait à une vitesse inférieure, c'est pas ça, mais rien de faire. C'est de voir, d'être attentif à la question donc de la paternité, de la maternité, de la relation. Essayer de voir. C'est de découvrir, bon, un petit peu dans la lumière quand même, dans la lumière de la sagesse tout de même, hein, tout à fait. Mais essayer de voir, essayer de regarder cette question de la relation. Bon, ça nous empêche pas de que ce soit un bon arrêt, n'est-ce pas ? Un triduum intéressant, n'est-ce pas ? On a vu hier, en allant à ce mur en Brionnais, qui a eu cette profession des petites religieuses, là, de ces petites épouses grises. On a vu que c'était aveuglant, qu'on était quand même dans un contexte et une atmosphère qu'on ne trouve plus dans le monde. Un contexte, une atmosphère inhabituelle. Si on était méchant, on dirait on se retrouvait au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Si on était méchant, si on regardait de l'extérieur. Mais si on regardait de l'intérieur, on s'apercevait qu'il y avait des relations vivantes. Celui qui présidait, donc le fondateur, il était là, le père Marido, il était là, et il avait une relation vivante. Peut-être que, je sais pas, c'était peut-être un petit peu un handicap que vous aviez, vous, parce que vous étiez à l'arrière. Alors, vous ne pouviez pas voir, le visage frétillant, à chaque parole, à chaque battement, j'allais dire, de l'affection, de la paternité, qui était une paternité spirituelle, une paternité instrumentale, si vous voulez. À chaque mot, ça réveillait on voyait sur ces visages féminins, on ne voyait plus d'ailleurs une partie du visage, on voyait que ça frétillait, que c'était, il y avait une résonance, il y avait une relation vivante. Il y a une relation vivante, il y avait une relation de paternité, il y avait une relation de filiation. C'était des petites filles. C'était pas des bonnes sœurs, c'était des petites filles. C'était des filles qui n'avaient pas peur de se retrouver dans une relation d'engendrement. Si vous voulez. On est engendré fondamentalement, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas à refuser son identité. Notre origine, c'est que nous sommes engendrés. Il n'y a rien de traumatisant à ça. On est engendré. J'étais engendré par mon père, par ma mère. J'étais engendré par Dieu. Dieu lui-même est engendré. Le Verbe, le Créateur, est engendré. Engendré, non pas créé. Et le Verbe de Dieu lui-même comme est le Fils éternellement engendré. Dieu est éternellement engendré. Il n'y a rien de traumatisant à ça. Il n'y a rien d'être engendré. Il n'y a rien de... Vous comprenez bien qu'il y a... Parce qu'il faut comprendre le climat dans lequel nous nous trouvons, qui est un climat apocalyptique, un climat d'efficacité, un climat d'agitation. C'est les trois caractéristiques que l'Apocalypse nous donne sur le sixième sceau. On est en plein dedans. Hein. Et ce climat-là, dans ce climat-là, d'être engendré, c'est une honte. Avoir une relation, être engendré, c'est honteux. Parce que c'est pas efficace, vous comprenez? Dans le domaine de l'efficacité, c'est pourquoi? Parce que ça relève de la fécondité. Et il y a une contradiction. Bizarre d'ailleurs qu'il y ait une contradiction. C'est très rare qu'il y ait des contradictions. Il y a une contradiction entre la recherche de l'efficacité pour elle-même et la recherche de la fécondité. C'est pour ça que d'ailleurs, pour qu'il y ait efficacité et que l'efficacité soit prise pour elle-même, il est nécessaire qu'il y ait beaucoup d'agitation. Parce que si on n'est pas dans l'agitation, eh bien l'efficacité ne pourra jamais être prise pour elle-même. S'il y a un moment de repos, de réflexion, d'autonomie, de liberté, l'appel à la fécondité revient. Et du coup, l'efficacité ne peut plus être prise pour elle-même. C'est pour ça que c'est si important, dans le sixième sceau, qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'agitation. Sinon, il ne peut pas y avoir le règne de l'efficacité pour elle-même. Parce que dans la relation, si une relation n'est pas métallique, c'est la relation d'efficacité. Si ce n'est pas une relation logique, relation d'efficacité, informatique, soit. Si c'est une relation vivante, alors à ce moment-là, ça implique qu'on retrouve cette paternité, cette maternité, cette identité qui est la nôtre et qui consiste à voir que nous sommes un fils, une toute petite fille, nous sommes engendrés. Il y a trois grands types de relations. Et si on retrouve d'abord cette relation fondamentale, elle était coupée à un moment donné. Notre première relation, c'est d'être enfant, c'est d'être engendré. À un moment donné, il y a eu peut-être une déviation. On ne s'est pas retrouvé très bien comme fils de son père, comme fille de sa mère, ou comme fille de son père, ou comme fils de sa mère. On s'est pas bien retrouvé, alors on est parti dans une autre direction. Et donc à un moment, il faut reprendre cette relation vivante, là où elle s'est arrêtée de croître. Sinon, comment allons-nous retrouver cette relation vivante? Si une relation de fils, d'engendrement, opère sa croissance, arrive à sa maturité, on va pouvoir donc trouver en nous la source d'une relation vivante dans l'ordre de la fécondité, et donc une relation de paternité et une relation de maternité. Voilà. Donc vous voyez, un petit peu regarder cette question très délicate, parce que elle est blessante quelque part. On, par rapport au sujet qu'on pourrait regarder, sujet très délicat, hein, je vous signale, c'est évident que c'est délicat. C'est délicat parce qu'il y a tout un mélange de problèmes psychologiques qui se posent, il y a tout un mélange de problèmes spirituels qui se posent, et il y a tout un mélange religieux aussi, il y a toute une intervention aussi de la grâce pour nous remettre dans cette relation de fils, pour nous remettre dans les mains du Père, pour découvrir notre mère. Donc ça touche à tout, ça touche aussi bien sûr du coup aux réactions du corps. Et donc il y a quelque chose de viscéral par rapport à ça. Et comme pour aujourd'hui, nous sommes très très mal fagotés sur ce point-là, n'est-ce pas? Très mal foutus, hein? Alors, du coup, ça fait mal aussi, hein? Ça fait mal aussi, hein? À raison de quoi? Comme on n'aime pas tellement que se sentir mal, on engendre par rapport à cette quête de la vérité-là des mécanismes de défense. Alors, les mécanismes de défense, je voudrais que vous les signaliez dès le départ, comme ça, pour les reconnaître en vous, bien sûr, mais pour les reconnaître aussi quand vous parlez avec des amis, avec vos enfants, quand vous parlez avec Dieu. Des mécanismes de défense, quand vous parlez avec Jésus, quand vous parlez avec Marie, quand vous parlez avec le Père, quand vous assistez à une cérémonie et que vous voyez qu'il y a une paternité qui sert à communiquer la vie divine, la vie de l'intelligence, le réveil de l'amour, on a des mécanismes de défense, il y a des phénomènes de défense en nous. Bon, les phénomènes de défense, je n'ai pas envie de vous les donner tous, mais au moins, grosso modo, si vraiment on est très très, très blessé par rapport à une relation de filiation, par exemple, ou une relation de paternité, ou une relation de maternité, ou une relation sponsale, hein, de complémentarité, si on est très, très blessé, et qu'on ne veut pas... Tout ça, c'était complètement refoulé. Alors, si quelqu'un commence à en parler, ou si je commence, moi, à vouloir essayer de revivre quelque chose d'analogique, d'analogue à cette relation perdue, alors je ressens en moi un mécanisme de défense qu'on appelle l'indifférence. Mais j'en ai rien à cirer. C'est en même temps une réaction violente et en même temps une réaction où on ressent rien. C'est très curieux d'ailleurs, l'indifférence. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien du tout. Alors vous voyez, vous pouvez transposer ça sur le plan surnaturel, sur le plan religieux, sur le plan spirituel, c'est-à-dire spirituel, ça veut dire le plan humain. Hein. Parce que l'âme est esprit hein, dans une chair. Hein. Donc les relations que nous avons sont des relations spirituelles, si c'est humain. Si c'est pas au niveau de la psy, quand c'est au niveau psy, c'est espèce animale. L'homme est un animal raisonnable. C'est un animal. On n'a pas du tout à nier ça. Donc on a une dimension psy aussi. Mais si on est pleinement homme, femme, père, mère, enfant, nous avons ensemble des relations spirituelles. Quand on dit relations spirituelles, ça ne veut pas dire Dieu. Hein, Dieu. Pas forcément. Parce que Dieu n'est pas évacué. Il n'est pas mis dehors dans nos relations spirituelles. Pas forcément. On ne méprise pas du tout Dieu. Mais nos relations sont spirituelles. Alors, par ailleurs, Dieu est invité. Ça, c'est très bien. Donc, quand, ou alors psychologiquement, on se trouve psychiquement avec un besoin de. Un manque. De maternité, un manque de stabilité, voyez. Alors à ce moment-là, que ce soit sur un de ces quatre plans, donc psychologique, le courant, spirituel, là, ça c'est contemplatif, c'est extatique, c'est la mémoire, l'identité pure, religieux, ou surnaturel, que ce soit sur un de ces quatre plans. Lorsqu'on commence, par exemple, vous dites, moi, je sais pas, il y a des gens qui vont dire, moi, par exemple, quand je dis notre père, ça me laisse froid. Notre père, ça me laisse froid. Ça m'indiffère. Ça me dit rien. Ça ne me parle pas du tout. Voilà. Quand je me tourne, sur le plan surnaturel, c'est plus facile. Il y a Marie, c'est ma maman, c'est. Ah, je pourrais jamais dire à Marie, en regardant une statue, tu es ma maman, tu es ma maman, c'est toi qui me donnes la vie en ce moment. Hein. Je pourrais jamais dire ça, je regarde Marie, ça me laisse froid. L'indifférence, vous voyez, c'est le mécanisme de défense le plus puissant qui se tourne. Si, par rapport à un type de relation. Il y a une réaction qui est en même temps violente parce que par derrière il y a comme un espèce de, j'ose pas dire ça, mais un espèce de dégoût. Mais on ne le ressent pas. On ne ressent que de l'indifférence. Ça ne me parle pas. Donc l'indifférence, c'est le premier type de défense. C'est là où la défense est la plus forte. Quand on commence à s'intéresser un petit peu plus à la question, que le mécanisme de défense n'est pas encore totalement, n'a pas pris possession totale de nous, c'est plutôt une angoisse qui apparaît. Lorsque l'angoisse apparaît, c'est un mécanisme de défense, c'est évident pour prendre du recul. C'est comme tu mets ta main sur la chaudière qui est brûlante, c'est chauffé à rouge, tu mets ta main dessus, c'est comme ça, tu ne veux pas te toucher, c'est la peur, mais c'est une peur, c'est une peur qui n'est pas dans la lumière, donc ça fait une angoisse. L'angoisse est un mécanisme de recul, mais qu'on ne comprend pas pourquoi. Mais l'avantage de l'angoisse, c'est que ça prouve quand même que la relation n'est pas totalement coupée. Il y a une angoisse, c'est quelque chose qui fait que il y a le boule qui monte, vous voyez, c'est un mécanisme. Il ne faut pas s'affoler si c'est une angoisse. Il faut s'inquiéter si c'est l'indifférence. Il faut se réjouir si c'est l'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est le signe que on accepte de se décrisper. On lâche prise un peu. Et du coup, il y a la coupure qui apparaît. On ne sait pas que c'est ça. On ne sait pas que c'est ça. Mais profondément, on a le désir de retrouver son père, sa mère, de retrouver, d'avoir son enfant, d'être père, d'être mère, de passer d'une relation d'efficacité, d'une relation métallique, ou d'une relation psychique inversée, à une relation spirituelle, une relation humaine de paternité, vivante, de filiation. Voyez ça. Donc, mais il faut repérer, vous voyez ça, il faut repérer. Par exemple, vous pouvez par exemple pendant 2-3 mois essayer de dire je vais me tourner vers, vous avez tous plus ou moins éprouvé ça un jour ou l'autre, je vais me tourner vers Marie parce que j'ai besoin d'une mère. Marie, c'est sûr, elle est une mère parfaite. Ben, vous avez tous éprouvé ça, sûrement, dans votre vie spirituelle. Que avant d'avoir eu le coup de cœur, si vous voulez, pour elle, eh ben, l'indifférence. Marie, ça me dit rien. Et quand l'indifférence laisse apparaître un petit peu, légèrement, pas trop, mais un petit peu même le dégoût, une espèce de non, pas Marie, c'est trop cucu, c'est trop. C'est pas mal parce que il y a une petite angoisse qui apparaît. Mais je veux pas devenir comme tous ces espèces de grenouilles de sacristie complètement ridicules. L'angoisse qui apparaît. Puis là, après, au bout d'un certain temps, ça, vous voyez, l'angoisse est un phénomène de défense qui est moins fort, beaucoup moins fort. C'est très connu, ce que je vous dis là, c'est tous les psychologues savent ça, c'est un truc de base de psychologie, tous ceux qui travaillent avec les... Attends, vous voyez ? Ce qui est marrant, c'est que quand vous allez dans les hôpitaux, on met les dépressifs, les malades, tout ça, de psychiatrie, eh ben, je trouve ça très curieux. Les gens sont dans l'angoisse, on les transforme en légumes, on les met dans l'indifférence. Donc on les met dans une situation pire. Du point de vue de au niveau de l'efficacité, ça c'est sûr. C'est moins lourd à porter. Enfin, c'est moins lourd à porter. C'est pas sûr. Parce que du coup, vous vous rendez compte, la destruction que ça fait dans tout l'environnement humain, et les infirmiers, et les médecins, eux-mêmes, parce qu'il y a une connexion, on est des vases communicants, vous savez. La vie spirituelle, c'est pas parce que vous faites passer quelqu'un de l'angoisse à l'indifférence en transformant en légumes que sa vie spirituelle s'arrête. Et dans la vie spirituelle, vous pouvez féconder la destruction, vous pouvez féconder la résurrection. Et on est vase communicant. Jésus a été en relation avec tous les pécheurs et la relation que nous avons eue avec lui a détruit tout en lui. C'est laisser détruire par amour. Parce qu'il y a une relation spirituelle, lui était homme. Alors, comprenez ça. Alors, le mécanisme de l'angoisse. Puis ensuite, après, c'est plutôt le troisième mécanisme, beaucoup moins fort. Enfin, c'est bon. C'est l'agitation et la paresse et tout ça, si vous voulez. Mais ça, c'est... On s'occupe d'autre chose. Oui, j'aime bien, mais de temps en temps, et pas trop, quoi, vous voyez. Donc, mais ça, c'est plus un phénomène d'immaturité. Mais c'est autre chose. C'est plus du tout un mécanisme de défense. Et au contraire, ça laisse la place, petit à petit, à une certaine émotion, il faut l'appeler comme ça, de sérénité, de paix. On est content, intérieurement il y a une chaleur. Ça, c'est pas un mécanisme de défense. C'est un appel à la croissance. C'est un mécanisme de défense par rapport à la croissance. Donc vous avez retrouvé une relation vivante, Mais comme vous voulez vous attarder à cette chaleur, à ce bien-être, n'est-ce pas? Vous voulez vous arrêter, ça vous permet de ne pas croître dans la filiation, dans la paternité, dans la maternité. On se retrouve, si vous voulez, du coup, on perd la relation. C'est un mécanisme de défense plus subtil, mais c'est par rapport à la croissance. Vous voyez donc trois grands mécanismes de défense. Le troisième est très sympathique. C'est très agréable. Il ne faut pas s'arrêter à ce troisième. Mais c'est très connu. Ça, c'est vraiment le truc pour votre culture générale de base. Hein, les trois mécanismes de défense. Oui. Le troisième. Une relation implique une fécondité. Toute fécondité implique une croissance. Il n'y a pas de croissance dans la relation d'efficacité. J'ai toucher mon but ou je ne l'ai pas touché. Point. J'ai eu un résultat ou je ne l'ai pas eu. Point. Tandis que dans la relation de paternité, ça ne s'arrête jamais. Maintenant, il est majeur, c'est terminé. Je n'ai plus autorité sur mon fils. Eh bien, ça n'est pas vrai. C'est une autorité beaucoup plus profonde, beaucoup plus féconde. C'est vrai, je n'ai plus pouvoir sur mon fils. Mais le pouvoir, ça relève de l'efficacité. Tandis que l'autorité, elle féconde un fils. Et donc, quelque part, on dit, ça va, il a fait Polytechnique, il s'est marié avec Isabelle Adjani, qui est très mignonne. C'est une comédienne remarquable. Vous avez regardé le jeu de ses yeux. Ça va. Il a deux résidences secondaires. En plus... Bon, d'accord, il... D'accord, il... Il est bouddhiste. Bon, voilà. Mais... Il va se comprendre, hein? C'est aussi bien, toutes les religions se valent, donc ça va. Et puis, il est majeur, donc moi c'est fini. C'est extraordinaire ça, il y a beaucoup qui pensent comme ça. Il est content. C'est un mécanisme de défense, c'est un refus de paternité. Oui. Parce que la paternité, c'est toujours d'obtenir la croissance. Et les bouddhistes, c'est très bien, je veux dire. C'est un mécanisme de défense, on le voit bien. Pardon ? Je connais pas le fils de Revel. Voilà. Donc, vous voyez bien que par rapport à ce qu'on voudrait regarder, nous aurons tous des moments, si vous voulez, où on va aborder ces questions-là. On va avoir ces réactions. C'est pas étonnant, si vous voulez. Des réactions de mélange de dégoût, d'indifférence, des relations d'angoisse, hein, et ou des relations contraires, des phénomènes. Bon, que finalement ça nous intéresse, oui, tiens, c'est pas mal, etc. Vous voyez, on va avoir ces trois types de réactions. Du reste, vous voyez, quand on commence à guérir, quand on passe 3 mois, quelquefois, pendant 3 mois, ça ne me dit rien, je vais prier dans une direction, vous voyez. On le voit bien dans un noviciat. Bon, dans le monde, c'est plus difficile parce qu'on avance beaucoup plus lentement. Mais dans un noviciat, c'est génial parce que vous passez, par exemple, sur certains sujets d'éthique, de métaphysique, de théologie, de spiritualité. Pendant 3 mois, ça ne vous dit rien. Puis au bout de 3 mois, c'est des angoisses, vous voulez pas y aller. Et puis après, pendant 3 mois, c'est génial. Et c'est extrême, cette espèce de lâcher prise qui se fait progressivement. Et donc il faut savoir, hein, c'est le petit baromètre. Hein. Donc si vous ne me dites rien du tout, c'est très bien, continuez. S'il y a des angoisses, ça avance. Ah, ça devient vraiment intéressant. Ah, c'est bien. Vous allez pouvoir vous mettre sur le tremplin pour commencer à plonger dans la relation. Dans la piscine de la relation. Il y a les trois gradins, n'est-ce pas? Bon. C'est pour Enfin, faut pas s'affoler. Bon. Ce que je vais essayer de dire, je vais le dire pauvrement, parce que vous savez, je suis comme vous, hein, je cherche. Hein. Je cherche et c'est pas commode. C'est pas commode dans ce domaine-là, qui est un problème très délicat. Je voudrais quand même dire tout de suite une chose. C'est que toutes ces relations, toute cette fécondité humaine, où on est sur la dépendance vitale, profonde, d'un autre que nous, nous ramène bien sûr au visage de notre papa, de notre maman, notre vrai père, notre vraie mère, mais aussi qu'il faut toujours qu'on se rappelle que la paternité et la maternité, qui sont le visage précisément auquel nous sommes confrontés pour nous retrouver comme fils, comme enfant, il faut qu'on fasse toujours cet effort de voir que cette paternité, cette maternité, elles viennent, quoi que je puisse penser, quoi que je puisse éprouver, quoi que je puisse juger, elles viennent de Dieu. Toute paternité vient de Dieu. Et aussi, tout engendrement vient de Dieu. Parce que Dieu est Père. Et la paternité de notre Père vis-à-vis de nous est une paternité quand même vivante. Et elle est participée, la paternité de Dieu. Et bien souvent, un des moyens que je pense très important pour nous de pouvoir faire cette quête de la recherche de notre Père, de l'esprit d'enfance, de l'enfant qui est en nous, de l'enfant perdu qui est en nous, de retrouver cet enfant perdu qui est en nous. Eh bien, ça me paraît très important, chaque fois qu'on va essayer de retrouver le visage du Père, de comprendre que notre papa, notre Père, notre oncle, notre prof, notre patron, le pape, ça, ou le curé, ça. tous les analogues de la paternité, ça. Eh bien, il faut comprendre, vous voyez, regardez ce que Jésus a dit à Pilate. Tu n'aurais pas cette autorité, ce pouvoir, si tu ne l'avais pas reçu de Dieu. Mais j'ai le pouvoir de te faire tuer, de te faire crucifier. Tu n'aurais pas ce pouvoir, tu n'aurais pas cette autorité, si elle ne t'était pas donnée par Dieu. Donc Jésus qui reconnaît dans Pilate la volonté et l'autorité du Père éternel. Faire ce lien tout le temps, qui est un lien paradoxal, entre une paternité blessée et une paternité incréée. Dieu est notre Père. Et tout le temps revenir à ça. Je regarde, par exemple, je me rappelle de mon papa, je me rappelle de mon père. Bon, il est ce qu'il est, il a ses limites, c'est un homme. Donc, les femmes n'ont pas de limites, mais les hommes ont beaucoup de limites, c'est pas ? Tout le monde sait ça. C'est normal parce qu'une femme, se répand, tandis qu'un homme se ramasse. Ça, tout le monde, c'est très connu. C'est le mouvement de la spontanéité comme ça, la masculinité structurée comme ça. Ça, je vous ai déjà expliqué. Un père se ramasse. Hein. S'il est viril, il ramasse. C'est ça la virilité. Hein. Parce qu'une femme se répand. Elle prend de la place. Il y a des caricatures, hein. Ça c'est évident. C'est évident. Ah, c'est limité un homme donc. Donc vous voyez, là, voir à travers cette icône limitée, remonter toujours jusqu'à la paternité de Dieu, parce que c'est Dieu qui est mon père. Quand je pense à mon père concret, si vous voulez, à mon vrai père, mon père géniteur, mon père adoptif, enfin tout ce que vous voulez, tout de suite instinctivement, c'est un instinct spirituel, hein, ça, hein, c'est un instinct religieux. C'est Plotin qui disait ça. C'est vieux, c'est un philosophe du deuxième siècle. Un très grand philosophe, Plotin. Toujours se rappeler que face à quelqu'un qui a autorité sur moi, il y a cette paternité et automatiquement et directement une participation de la paternité de Dieu. Que Dieu m'a donné une âme spirituelle. Il m'a communiqué la vie. Et je ressemble beaucoup plus à Dieu, mon créateur, mon père, qu'à mon père, géniteur. Je ressemble beaucoup plus à mon père éternel qu'à mon père temporel. Il faut toujours se rappeler ça. Mais les deux sont liés. Et de fait, de lier les deux, ça doit nous aider à retrouver cette relation de paternité. Vous voyez ? Je peux vous mettre ça sous forme de schéma, si vous voulez. Bon, je suis là, n'est-ce pas ? Vous voyez comme je dessine mal. Je suis là, un espèce de tas. Un tas. Je suis en relation avec mon papa, n'est-ce pas ? Qui est... Donc, un papa, c'est viril, il se ramasse. À côté, il y a la maman, hein ? D'accord, il y a la maman. Qui, elle, se répand, n'est-ce pas ? Si on dit bien ça, que la femme manifeste la gloire de l'homme, hein, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'on dit... Alors, c'est ça, quand vous avez une relation avec vos parents, s'il y a un problème, si vous voulez, indifférence, angoisse, je sais pas quoi, vous regardez vos parents, ben tiens, oui, c'est le premier visage que vous voyez, c'est la mère, parce qu'elle est étouffante, hein, forcément. Psychologiquement, c'est étouffant, une mère. Voilà, vous voyez, c'est très curieux. Alors, ça, vous, une fois que vous êtes là, si vous dites, je veux à nouveau être fils, alors je vais me remettre concrètement, en relation concrète avec l'intimité de mon père, de ma propre intimité, ben vous n'y arriverez pas. Voilà ce que je viens d'essayer de vous expliquer. Il ne faut pas que vous alliez dans cet intervalle-là, il faut que vous alliez de l'intérieur jusqu'ici, si vous voulez, voyez. Il faut que vous alliez dans cet intervalle-là, entre la paternité de Dieu et la paternité de votre père. Si vous voulez reconnaître votre celui qui a été votre papa, votre maman, comme père et mère, spirituellement. Ici, si vous regardez la relation qu'il y a entre vous et votre papa et votre maman, ça, c'est psy. Tandis que si vous regardez la paternité de votre père et votre mère par rapport à vous, en regardant l'espace qu'il y a entre le père, Dieu le père, celui qui donne la vie, et votre père, alors ça, c'est humain. Vous êtes un homme, là. Vous regardez humainement la paternité qui vous a engendré. Ce n'est pas cette paternité-là qui vous a engendré à travers la manifestation étouffante. Mais c'est cette paternité-là qui vous a engendré. C'est l'évidence. On a honte même de le dire. C'est pour ça que ça aide beaucoup, vous voyez. Ça aide beaucoup de retrouver l'adoration naturelle. Et retrouvant l'adoration naturelle, retrouver aussi dans le corps cette marque de l'engendrement de notre âme spirituelle dans le corps. Et ça, ça nous vient de la relation qu'il y a entre le père et notre papa. Et c'est dans cette lumière qu'on peut regarder son père, dans une relation de vie. Sinon, ce sera une relation psychologique, donc une relation aussi... Attention, il faut que je reprenne mes défenses parce que... Et voilà, vous voyez. Et à ce moment-là, il faut que, si je veux rester en bonne santé... Que je garde mon équilibre, il faut que que je mette plein de trucs, tu vois, que je pose plein de précautions. À ce moment-là, ça devient une relation métallique, hein, une relation de logique, une relation analytique, une relation dialectique, une relation névrotique. Et nous, on est des hommes, vous voyez, on n'est pas des bêtes, un animal. Si la vache, quand elle a mis son veau, là, donne des grands coups de corne parce que ça lui a fait mal, eh ben, il y a une relation névrotique entre le veau et la vache. Et on n'est pas une vache. Nous sommes des hommes. Hein. Vous voyez ? Donc, se rappeler toujours par rapport à ça, qu'il faut se rester, puisque nous regardons cette relation vivante, toujours faire cet effort spirituel, cet effort contemplatif, cet effort de sortir de nous-mêmes pour retrouver la présence de notre Père, notre Créateur. Il nous a donné d'être à sa ressemblance, d'être à son image. Et pour ça, il s'est servi d'un homme et d'une femme. Il faut remonter à la source. C'est pour ça que le troisième mécanisme de défense est pénible. Il nous empêche de faire ça. C'est pour ça que le troisième mécanisme de défense est un mécanisme de défense. Parce qu'on ne fait pas ça. On se laisse aller. Oh, je me sens bien, c'est mon père. Ma mère, avec ma mère, ça va bien, on s'aime. On s'est toujours aimé, il n'y a jamais eu de problème. Enfin, ça, pour vous, ce n'est pas le cas, mais pour moi non plus. Alors du coup, on se laisse aller. On se laisse aller dans le sens du courant. C'est une émotion. On se laisse aller dans le sens du courant. Il faut gérer ses émotions. Il faut adorer. Et vous savez, si vous allez dans le sens du courant, vous allez à la même vitesse que les cadavres. Hein. Puis après, c'est la chute. Il faut remonter à la source. Dans le sens contraire du sens du courant, du climat idéologique dans lequel on est, hein, du climat de meurtre de la paternité, de destruction. Ça, c'est le meurtre du père. Vous voyez le langage de la pensée contemporaine depuis 40 ans à peu près. Le meurtre du père, la destruction de la mère, la destruction de l'enfant plus exactement, l'avortement c'est la destruction de l'enfant. Et la lutte contre la fécondité maternelle. Il y a un combat contre la femme, il y a une destruction de l'enfant, et il y a le meurtre du père. On est dans ce climat-là, assez net. Hein. Vous n'avez qu'à regarder, je ne sais pas ce que dit Glucksmann, par exemple, que j'aime bien comme philosophe. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu ça. Et on est imbibé de ça. Si on va dans le sens du courant, vous sentez bien, filiation, maternité, paternité, on peut prendre le deuil, hein, on s'habille de noir, hein, puis voilà. Ou de gris. Voilà. Donc il faut quand même... Voilà, c'est juste à titre comme ça, c'est des petites précautions oratoires avant de commencer. Se remettre tout le temps dans les bras, et ça, j'ai besoin de mon corps pour ça, se remettre dans les bras du Père. Parce que le Père, Dieu, m'a donné la vie en l'unissant à mon corps, jusque dans l'aspect fondamental de mon corps. Et c'est à cause de ça que je suis à son image. Et à sa ressemblance. Et je ressemble infiniment plus à mon père, mon créateur, qu'à mes parents. Sans aucune comparaison. Même sur le plan de l'union du corps et de la vie intérieure. Il y a un visage physique que nous avons et qui fait qu'on ressemble plus, contrairement à ce qu'on croit, à la face de Dieu qu'à la face de nos parents. C'est évident, ça. avec un petit peu d'expérience. Alors du coup, on finit par aimer notre Père. Et cette relation, cette tension qui est entre la source de notre image ressemblance à lui-même et ce dont il s'est servi dans nos parents, on finit par apprécier et à la faire croître. C'est ça la sagesse. La sagesse du point de vue de la vie, c'est ça. La sagesse du corps et la sagesse de la vie. La porte d'entrée, c'est ce que je viens de vous dire. Et si on se place là, dans ce centre de gravité, là, alors à ce moment-là, les mécanismes de différence, ou d'indifférence, d'angoisse ou de paresse, parce que c'est sympa, parce que vous êtes bien, vous les regardez de haut, vous les laissez s'écouler tranquillement. C'est pas grave. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui compte, ce que vous avez, vous êtes, c'est la réalité. C'est la vérité. La vérité du corps, la vérité de ce que c'est que l'image ressemblance. Alors c'est pour ça qu'il y a, je vais vous peut-être rappeler parce que le champ de bataille dans lequel on se trouve, cette paternité m'a placé je sais pas, il faut que je... Ben oui, mais j'ai commencé à... Ça fait une heure déjà. Faut que je fasse vachement gaffe. Hein. J'ai pas avancé d'un pouce. Bon, écoutez, je m'excuse, on va essayer d'avancer alors. Donc vous vous rappelez ici ce schéma ici, que vous connaissez déjà, et qui structure tout le point de vue de la mémoire, de la mémoriaté. Si nous sommes des êtres dans notre corps de lumière vivante, nous sommes des êtres de lumière vivante jusque dans notre corps, c'est à cause de la paternité, ce que saint Augustin appelle la mémoriaté. Il y a une impression en nous de lumière éternelle dans le corps, qui fait qu'on a vraiment le visage corporellement et spirituellement et vivant de Dieu. Et il s'est servi pour ça, de l'unité de chair de nos parents. Alors ça, c'est la mémoire qu'on a. La mémoire de notre identité, de notre origine, de notre éternité. C'est une lumière éternelle. Hein. La paternité de Dieu, c'est une marque de lumière éternelle. Et ça demeure tout le temps, ça. Ça peut croître, s'intensifier. Ce visage, si vous voulez, transparent, originel, qui est le nôtre, doit croître, doit se sanctifier, doit s'intensifier, doit être glorifié, doit triompher. Hein?
Quelle relation ça a avec la présence d'immensité en
fait? Alors, la présence d'immensité du Créateur, c'est que Dieu est Créateur de tout ce qui existe. Le cosmos existe. La vie existe. Regarde les fleurs, les papillons. Et puis, toi, tu existes. Et les autres existent. Donc à chaque fois que tu constates que quelque chose existe, si elle existe, c'est parce que Dieu actuellement fait qu'elle existe. Donc il est présent par sa présence d'immensité. On appelle ça la présence d'immensité. Il est, quand on dit il est partout présent, ah d'accord, il est partout présent, mais il n'est pas présent partout, n'importe comment. Il est présent par sa présence d'immensité, c'est-à-dire que tu touches quelque chose qui existe, tu te touches toi qui existe, et ce qui fait que ça existe, c'est parce que Dieu fait que ça existe. Donc il y a un toucher du Créateur. Donc ça touche le point de vue de l'être, la présence d'immensité. Tandis qu'ici, je parle de la présence vivante. C'est la lumière vivante qui brûle de l'intérieur la substance de mon corps est une lumière de paternité qui fait que j'ai un visage originel qui ne demande qu'à grandir, qu'à s'intensifier, qu'à croître librement, sans fil à la patte, qu'à triompher, qu'à être glorifié, qu'à être sanctifié. Il faut que mon innocence originelle finisse par triompher. Donc je me place simplement dans les bras, en me mettant dans ce qu'il y a de plus fondamental dans mon corps. Vous le savez, c'est au niveau de la cellule, hein, c'est pas au niveau des organes. C'est pas mon cœur qui bat. C'est pas mes yeux qui palpitent. C'est pas... Non, non, c'est pas mon attention qui est... centuplée, non, ça fait rire. C'est bien, c'est très bien, mais c'est pas ça. C'est au niveau de la cellule, hein, c'est la cellule. C'est quand on était une petite cellule que... qui a eu ce visage de Dieu sur nous, et du coup on a ce reflet, qui va se traduire d'ailleurs par le visage, par la manière de poser sa main, de saisir de son sens du toucher, etc. Ça va avoir une influence, ce sera une influence plus lointaine, mais c'est au niveau donc du corps fondamental, l'aspect fondamental du corps qui a cette présence originelle, cette lumière éternelle vivante. Cette identité originelle qui ne demande donc qu'à triompher. Il faut la retrouver. On est dans les bras du Père. Il nous a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné cette lumière. Il me la donne. Elle s'écoule continuellement. Elle ne demande qu'à... C'est une lumière qui doit croître, qui doit glorifier, qui doit se glorifier, qui doit triompher de tout. Le corps joue un rôle très important là. Se saisir dans son corps, dans l'aspect le plus petit du corps, le plus pauvre du corps, le plus dépendant du corps, le plus enfant du corps, le plus humble du corps, le plus fondamental du corps. Pour ça. Peut-être que c'est un des phénomènes, remarquez bien, de l'orgueil qui fait qu'on s'intéresse après davantage à d'autres aspects du corps, beaucoup moins fondamentaux, intermédiaires, comme ça, on ne se pose pas trop de questions. Donc on va essayer de s'accomplir du point de vue de l'estomac. On va essayer de s'accomplir du point de vue du cerveau. On va essayer de s'accomplir du point de vue des palpitations. On va essayer de s'accomplir, vous voyez, tous ces points de vue des organes. C'est les organes corporels qui vont commander. C'est extraordinaire. Un peu plus subtil, on va essayer de s'accomplir sur un plan psychologique pour être à la recherche de la beauté pour elle-même. Une beauté séparée de la paternité, c'est une beauté qui n'est plus ordonnée, si vous voulez. C'est pour ça que elle peut devenir bizarre, cette beauté. Oui, c'est ça. Alors nous, quelque part, nous avons deux moyens de retrouver Dieu. Par l'intelligence, nous retrouvons le Créateur. Par le corps, nous retrouvons le Père. Par l'amour, nous retrouvons l'éternité. Parce qu'on est dans le temps. Mais le corps, vous voyez, pour retrouver le Père, quelque chose de très très important. Donc revenir au corps, mais revenir à ce qu'il y a de beaucoup plus authentique dans le corps, originel dans le corps, quant à notre identité, notre origine et notre fin. Et ça, c'est cette paternité, vous voyez. C'est quand même très curieux, remarquez bien que quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, par exemple? Ce qui se passe au niveau du corps, bon, l'âme se sépare, on est donc d'accord, mais le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare. Tout tombe, on dit en poussière, mais ça ne tombe pas en poussière. C'est les organes qui tombent en poussière. Vous voyez? Mais l'aspect fondamental du corps, la structure fondamentale, la cellule, elle demeure. Elle ne tombe pas en poussière, la cellule. C'est pas... Les cellules de votre cadavre ne tombent pas en poussière. Ils s'en vont. Vous voyez, par exemple, quand vous desquamez, par exemple, hein, desquamation, vous avez beaucoup de pellicules. aux cheveux, la desquamation. Quand vous lavez, il y a de la crasse. La crasse, c'est un amas de cellules, et puis qui s'en vont. Et puis voilà, ça s'en va. Je sais pas où, mais ça s'en va. On connaissait l'histoire de, je sais pas, c'était quoi, c'était peut-être il y a 2 ans, ou il y a 1 an, je sais plus, où ces savants ont retrouvé dans la roche une abeille fossilisée, enfin, des restes d'abeilles fossilisées, et ils ont repris un reste, c'était pas de la poussière, c'était pas de l'atome, c'était des cellules. Donc ils ont repris, ils l'ont mis dans une atmosphère, comment dire, de chaleur, enfin les conditions quoi, d'une vis ou une espèce de couveuse. Ils ont réussi à refaire vivre la cellule de l'abeille. Donc s'ils avaient fait un clonage, ça ferait une nouvelle abeille. Enfin c'est pas un clonage, mais s'ils avaient fait revivre cette cellule là, ça aurait fait une abeille. Donc vous voyez bien que la mort fait que le corps se décompose quant aux organes, mais pas, finalement, normalement, pas quant à la cellule. Normalement. Parce que quelquefois, la décomposition du corps va jusqu'à la décomposition de la cellule. Et oui, ça arrive, ça, c'est évident. Mais quand vous voyez des gens qui sont des gens normaux, normalement, si en plus ils sont remarquables, n'est-ce pas? Alors ils se décomposent même pas, n'est-ce pas? Quant aux organes, mais c'est le tout. Le tout reste, les reliques, voyez bien, ces espèces de saints, ces saints très nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on ne soit, qui sont des centaines de milliers, dans le corps se décomposent pas. Bon, eh bien, c'est pas que les organes ne sont pas reliés les uns, les cellules organiques ne sont pas reliées les uns aux autres, c'est l'ensemble, c'est le tout qui demeure. La preuve, c'est que si jamais on commençait à les trimballer, à les faire comme ça, et tac, ça casserait. On voit bien que si on prenait le corps de Sainte Rita, par exemple, ça casserait d'un seul coup. Et si ça casse au niveau du cœur, ça fait une petite cœur. Donc c'est pas les organes qui demeurent, c'est la structure cellulaire qui demeure. Oh, la crémation, justement, j'avoue que ça m'angoisse un peu, cette histoire de crémation. Ça prouve que à chaque fois que j'y pense à la crémation, ça m'angoisse. Donc j'ai encore des mécanismes de défense, donc je peux pas en parler. Mais crémation, on a crémation, je reconnais que c'est embêtant, ça m'embête, la crémation. Ça m'embête, la crémation. Je sais pas ce que ça fait, la crémation. Vous voyez, quand on a brûlé Jeanne d'Arc sur son bûcher, on a demandé aux soldats de prendre ces cendres et de les disperser. Mais dans les cendres, donc, il y avait encore le cœur de Jeanne qui était là et qui, au milieu des cendres encore rouges, battait encore. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est extraordinaire comme la crémation pour ça. Il y avait les cendres, mais il y avait encore le cœur qui battait. Et ça, c'est un miracle qui relève plus, me semble-t-il, de la grâce chrétienne. Vous voyez ça? Parce qu'ici, quand je parle ici de la paternité, je parle de la paternité naturelle, la paternité de sagesse naturelle. Bon, ils l'ont pris, ils l'ont découpé en morceaux, et puis jeté dans la Seine. Bon, ça c'est leur problème. Mais voyez bien qu'il y a, il me semble que quand il y a la crémation, c'est pas du tout sûr. Je crois que, par exemple, Jeanne, elle a été brûlée, certes. Bon, il y a les restes sont les cendres, mais les cendres ne me paraissent pas être le reste en poussière des cellules. Il me semble que si des cellules ont échappé dans l'air, quoi. Sous l'effet de la chaleur, il y en a pas mal qui sont partis, en tout cas, en l'air. Quand on lit le livre d'Ézéchiel pour la résurrection, on s'aperçoit que Dieu, pour ressusciter la chair de tous les vivants, de tous les hommes, à la résurrection de la chair, bon, ben, il prend les restes. Il prend les restes de chaque être humain. Au niveau biblique, il y a cette affirmation, cette évidence qu'au niveau scientifique, on est en train de c'est parfaitement au niveau scientifique, il y a des cellules de tous les êtres de nos, je sais pas si Noé Je sais pas, faut pas que je prenne Noé, mais faut que je prenne le Caïn, enfin, ou Mathusalem, enfin, tous ces gars-là. Bon, eh ben, il y a quelque chose, quelque part, il doit certainement y avoir des restes de leur corps, quelque part. Adam aussi. Adam aussi. Il doit rester quelques cellules. D'après, j'avais lu un truc il y a quelques années, c'est ça. C'était un biologiste qui disait que, bon, un être humain, bon, eh ben, il développe un certain nombre de poids cellulaires, et ce poids cellulaire est tel que, bon, ben, à la fin de sa vie, il y a à peu près, en moyenne, 40 fois le poids de son corps dans la nature, en cellules. C'est merveilleux. Ah, ça me ferait, je sais pas, ça me ferait 4 tonnes. 4 tonnes de cellules. Merveilleux, 40 fois le poids de mon corps, c'est fou ça. Je sens qu'après ma mort, j'aurai vraiment un certain poids, c'est pas? Parce que alors, notre âme, ensuite, qui se trouve dans la vision béatifique, reste en lien avec notre corps, dans l'aspect fondamental du corps. C'est pour ça qu'on respecte les reliques, parce qu'il y a un lien, c'est pas un lien de vitalité, mais c'est un lien quand même de substance. Et donc par le point de vue spirituel, il y a une vitalité spirituelle qui peut... Et effectivement, ce que dit le livre d'Ézéchiel, c'est qu'il prend des restes, tous les restes épars, il les rassemble, il reconstitue os, puis sur les os ligaments, puis sur ligaments chair, puis sur chair, puis après il souffle, il les met debout, puis après il rétablit la nefesh dans le corps qui vient de la neshama, dans le corps qui vient de relever, de reconstruire par sa puissance créatrice de résurrection. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est très beau ça. Et donc, c'est donc à partir vraiment de l'aspect fondamental du corps que nous avons été créés au départ, dans sa maternelle, mais c'est aussi à partir de l'aspect fondamental de ce corps, la cellule, que nous, c'est pas à partir de rien qu'on ressuscitera, que notre corps se retrouvera lui-même, non seulement au lieu que ça prenne un temps fou, parce que de la première cellule à aujourd'hui, ça prend pas mal de temps, puisque la résurrection, ben Dieu, il va opérer cette croissance corporelle par sa toute puissance, si vous voulez, ce qui est facile pour lui. C'est l'enfance de l'art, pour Jésus ressuscité. Il ressuscite Lazare, bon, mais ça c'est rien. Mais ressusciter, redonner à un corps son visage d'innocence glorieuse, voilà, ça oui. C'est ça la résurrection de la chair, quelque part. Mais évidemment, on sera dans la vision béatifique, j'espère. Bien avant ça. Sauf si le Seigneur revient dans 3 jours. Voilà, alors ce que j'aurais voulu, donc, oui... Mon sujet pour la première fois, mais vous voyez, c'est foutu, ça va être pour la deuxième, c'était de regarder, au fond, ce que c'était que cet homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons été engendrés par cette relation qu'il y a entre l'unité sponsale et la paternité vivante de Dieu, et ça engendre donc en nous toute une structure vivante, cette structure, quelque chose qui est ordonné, à l'image, la ressemblance de Dieu. Et je vous l'avais déjà fait, pour ça je vous le referai. Et c'est le champ de bataille de notre combat spirituel, notre combat d'humanité, notre combat de paternité, notre combat de fécondité, notre combat de relation, notre combat d'amour. Le champ de bataille, c'est cette image ressemblance de Dieu qui fait qu'on est nous-mêmes. Alors évidemment, il faudrait qu'on regarde ça, c'est que il y a la marque. Nous avons été créés à l'image par le Père. Il nous a donné la vie. En nous créant, nous avons été créés dans le Verbe. Le Verbe illumine, de Dieu illumine tout homme lorsque il vient en ce monde, Et il nous a créés dans un amour fou, qui n'est pas un amour limité, parce que c'est l'amour qu'il porte à son Fils qui fait qu'il nous a engendrés. Donc c'est un amour plus qu'infini. Donc il y a une marque de l'unité d'amour du Père et du Fils, et ces trois marques dans le développement spirituel du corps humain comme une présence vivante indélébile. Et cette présence vivante indélébile va donner à notre visage un reflet particulier. Ce sera un visage humain. On n'aura pas visage de Cro-Magnon, on aura un visage humain. On n'aura pas un visage de Lucie, on aura un visage humain. C'est très très curieux. Et cette marque-là, elle est présente en nous, vous voyez, sous forme d'impression. Il y a une impression. C'est un petit peu comme du... Je ne sais pas comment dire. Il y a une galette, vous voyez, elle est passée au feu, elle est cuite. Elle est imprimée par le feu. Le feu a mis son impression. On est cuit, quoi. On est cuit par le... On est cuit par le Père, par le Verbe, la lumière, par cet amour si puissant qu'il y a entre le Père et le Fils. On est cuit. On existe. On vit. Et on vit dans un corps. On vit dans un corps. Et ça va jusqu'au corps, cette cuisson extraordinaire. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de la vie. C'est très beau que Jésus ait donné dans le chapitre 6 cette définition de la plénitude de l'humanité dans le Fils du Père. Je suis le pain de la vie. On est cuit. Et là, seulement, il va y avoir donc toute une vitalité, toute une intériorité, tout un monde en nous, tout un monde qui sera marqué premièrement par un appel à vivre de manière contemplative de notre humanité de manière extatique dans une mémoire d'éternité. Et c'est ça qui structure toute notre intelligence dans sa pointe, dans sa profondeur, dans sa liberté, dans sa plénitude. L'intelligence est contemplative. Le cœur qui est capable de gérer ses émotions pour retrouver sa puissance extatique et la mémoire. La mémoire de Dieu, la mémoire du corps, la mémoire de l'innocence, la mémoire de l'origine, la mémoire de la fin. Puisque ces cinq choses sont présentes corporellement dans notre mémoire spirituelle. Alors ça, c'est le point de vue spirituel. Les puissances spirituelles qui sont en nous vont se décomposer en intelligence, recherche de la vérité, amour, affectivité, mémoire. Et tout cela, ça va se décomposer ensuite, enfin, ça va se diffuser dans une vitalité intérieure, dans des sentiments, dans ce qu'on va ressentir, dans des répercussions, dans un écho intérieur qu'on appelle le point de vue psychologique, hein, l'âme. Et cette âme, donc, elle est liée à tout un phénomène de relation qu'il y a avec le monde extérieur, dont le corps joue un rôle instrumental, voyez, mais le corps participe substantiellement à la personne et il est relation entre l'univers et le Créateur, mais présent de manière vivante en lui. Alors le corps joue un rôle très important. Alors, ici, il va y avoir donc trois grands aspects dans notre vitalité. Il y a un aspect, donc, du coup, de sens externe. Il y a les sens externes, Il y a toute la sensibilité interne. Oh là là. Interne. Et puis il y a le point de vue purement physique du corps. L'aspect matériel du corps. L'aspect matériel du corps est très important. Le fait qu'on soit matière, qu'on soit composé physiquement de matière, sans matière, fait qu'on est en lien avec l'ensemble de l'univers. Il y a un lien avec l'univers. Un lien de lumière, d'ailleurs. Un lien d'énergie, quelquefois, des gens disent. Bon, aujourd'hui, il y a des tas de recherches chez les scientifiques qui parlent, des scientifiques qui ont un peu là, ils sont en effervescence, qui disent un lien tachyonique. Les tachyons. Que ça, il y aurait les préons, il y a les photons qui vont à la vitesse comme nous, là, à la vitesse de normale, inférieure à la lumière. Il y aurait les photons dans les préons qui seraient à la vitesse, je ne me rappelle plus, qui vont à la vitesse de la lumière, et les tachyons, ça va plus vite que la vitesse de la lumière, mais comme ça ne peut pas remonter dans le temps, et c'est des éléments de matière dont on arrive à déterminer les champs d'ailleurs, les champs magnétiques, c'est les champs, mais comme du coup il ne peut pas remonter dans le temps, et bien il se diffuse dans tous les espaces. Il y aurait des éléments, qu'on arrive à repérer. Il y a des éléments dans notre corps, donc qui passent de notre corps et qui avec qui sont remplacés par d'autres et eux ils s'en vont. Mais quand un tachyon sort de notre corps, voyez, ça de notre corps, combien plus vite que la vitesse de la lumière, il va partout. C'est un élément de matière. C'est immédiat. C'est pour ça qu'on a c'est très très complexe. Hein. C'est très complexe. C'est à partir du collapse du psy, des champs de bord et tout ça. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué. Mais n'empêche que c'est très intéressant de savoir qu'il y a probablement. C'est une hypothèse scientifique hein, qui a des fondements quand même. Hein, mais il y a des phénomènes tachyoniques. Dans notre corps, il y a des parties très fondamentales de notre corps qui ne sont pas des photons, qui ne sont pas des préons, mais qui ont cette capacité, vous voyez, comme les quarks, par exemple, de foutre le camp. Vous voyez, c'est remplacé par un autre et ça s'en va. Bon, par exemple, vous avez une activité partout, puisque ça va plus vite que la vitesse de la lumière, ça va partout. Non, ça ne se dépose pas. Et là, pouf, partout. Comme il ne peut pas remonter dans le temps, il n'est pas dans le temps présent puisque ça ne va pas à la vitesse de la lumière, il va plus vite que la vitesse de la lumière. Il rentre dans un temps, ce qu'on appelle ça un temps spatial. C'est extraordinaire d'ailleurs. Moi, ça me plaît beaucoup parce que j'avais imaginé qu'il y avait quelque chose. Personnellement, ça me plaît beaucoup comme hypothèse parce que j'avais imaginé en effet qu'il y avait quelque chose donc, dans notre corps, du point de vue de la stricte matière. Mais très fondamental, c'est beaucoup plus élémentaire que la cellule. Hein. Beaucoup plus élémentaire que la cellule. La cellule, c'est un amas de millions de particules élémentaires. N'est-ce pas ? Et, qui fait que, par exemple, vous avez une activité hyper. Vous êtes transfiguré. Toute la matière en vous est entièrement transfigurée, habitée par la gloire de Dieu, par la gloire de Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui brûle toute votre personne, jusque dans le point de vue le plus élémentaire de la matière du corps, voyez. Et cette diffusion, à ce moment-là, qui s'en va dans tout l'univers, qui vient frapper tout l'univers. Vous voyez ce lien qu'il y a entre... C'est évident, hein, moi ça me paraît évident hein, qu'il y a quelque chose de la matière de notre corps qui se diffuse. C'est pas uniquement moral, la relation entre l'univers et nous. C'est pas uniquement de la lumière immatérielle. Il y a forcément un support de matière. C'est pour ça que vous voyez cette haine de l'anti-père, de l'anti-Dieu, pour le corps humain. Satan ne supporte pas le corps de l'homme. Il ne le supporte pas. C'est insupportable pour lui. Et vous voyez, donc il y a un aspect physique, Il y a un aspect de sensibilité interne, il y a un aspect de sensibilité externe. Et tout ça, ça rejoint cette grande structure de la présence du Père, du Verbe et de l'amour éternel dans notre corps. Il y a aussi le point de vue de la mémoire. Je me rappelle, mémoire sensible, je me rappelle quand j'étais enfant, ça c'est la mémoire sensible. De l'imagination et du sens commun. Vous voyez, vous avez trois puissances de psychiques qui commandent tout le monde psychique qui est en nous. Le sensus communi, le cogitatif, et la cogitative d'une part. On va y revenir si vous voulez. Vous avez, ou quoi que ce soit, pas la peine, l'imagination et puis la mémoire. Oui. C'est ces trois grandes puissances qui sont repérées et qui sont source de tout ce qu'on ressent. Du côté de la mémoire sensible, si elle est coupée de la mémoire ontologique, ça va donner l'inconscient. Une mémoire qui oublie sa propre substance n'est que mémoire psychologique et va engendrer tout un monde d'inconscient. Faire revenir à la mémoire tout ce monde d'inconscient, c'est une démarche donc psychologique. Faire revenir le souvenir avec cette mémoire et avec le corps à la memoria dei, alors à la mémoire ontologique, c'est une démarche spirituelle, démarche humaine. Et puis, il y a donc tout l'aspect des sens externes qui permettent avec le sens du toucher, du regard, de l'ouïe, de l'odorat, qui permettent de faire donc un jugement d'existence. Et toucher le point de vue de l'être, de l'existence. Avec ces trois, cette structure trinitaire qui est en nous, esprit, âme, corps d'une part, intelligence, amour, éternité, marque d'éternité, lumière éternelle imprimée dans le corps d'autre part. Il va y avoir une vitalisation qui va se faire, et cette vitalisation sera aussi de trois types. Il y aura trois grands types. Il y aura, ça c'est les grandes traditions, hein, ça c'est vraiment, m'excuse, c'est le résumé du résumé, ça. Hein. Il va y avoir un mouvement centrifuge, un mouvement vital centrifuge. La vitalité de la paternité vivante, spirituelle, lumineuse, amoureuse, transverbérante, voilà pour le verbe, ça, féconde et glorieuse de Dieu va passer à travers nous et va vouloir donc être glorifié. Il y a un mouvement centripète. Il y a un mouvement vivant, il y a un mouvement dans l'homme, il y a un mouvement centrifuge, pardon, il y a un mouvement centripète. Donc un mouvement de don. Nous donnons tout. Mouvement centrifuge. Il y a un mouvement centripète d'accueil. Il y a un mouvement centripète vivant d'accueil. Nous recevons l'autre, nous recevons la grâce, nous recevons l'une, nous recevons l'amour, nous recevons la lumière, nous recevons la réalité, nous recevons la vérité, nous recevons les personnes qui sont autour de nous pour les faire vivre en nous. Il y a une puissance d'accueil. Et puis, il y a un mouvement, donc trois mouvements. Un mouvement centrifuge, un mouvement centripète et un mouvement circulaire. Un mouvement circulaire. On va revenir sur ce mouvement circulaire parce qu'il est déjà 10h30. Donc, un mouvement circulaire qui fait qu'on passe de cette conscience d'amour d'origine qui est en nous, cette conscience trinitaire, qui n'est pas une conscience consciente, à la conscience de raison et à la conscience sensible. Donc on va regarder ça, j'en ai déjà parlé à Montpellier, donc on va quand même revenir là-dessus. Il y a un mouvement circulaire, il y a un triple mouvement en nous. Un mouvement centrifuge par lequel on peut vivre du don. On se donne, on est donné et on se donne. Dieu nous donne à notre prochain et nous sommes donnés à notre prochain. Voilà. Il y a un mouvement d'accueil. Bon, le don, c'est plus l'amour, hein. L'accueil, c'est plus l'intelligence. C'est pour ça que je disais que l'homme se ramasse, c'est l'accueil, et la femme se répand. La femme est médiatrice dans l'ordre de l'amour, tandis que l'homme est médiateur, c'est le prêtre. Il rassemble. Et c'est le prêtre qui rassemble l'Église, la communauté. Et c'est la femme qui fait l'unité. Marie qui fait l'unité. C'est sûr. Oui. C'est des petites choses. Il faut petit à petit sentir ces connotations différentes entre la paternité et la fécondité paternelle, la fécondité de la femme. Tout à fait différent. La fécondité de l'enfant. Donc il y a un mouvement donc d'amour, un mouvement de don, un mouvement d'accueil et un mouvement circulaire. Cette structure-là est très connue, très classique, notamment aussi en mystique, vous voyez, parce que là, on peut remonter. Quand vous prenez Saint-Denis l'Aréopagite, ou bien les grands mystiques dominicains concernant les mouvements de la vie mystique, quand Dieu opère des grandes transformations mystiques dans notre vie intérieure, dans notre raison, ces grandes transformations, eh bien, quelquefois, les impressions anagogiques de Dieu passent ou par le point de vue donc du centrifuge, soit par le point de vue du centripète, donc ils appellent la verticale, l'oblique, dans le langage théologique du 14e, 15e, 17e siècle aussi. Donc, soit par la verticale, soit par l'oblique, soit par le mouvement circulaire. T'es pris dans un tourbillon, quelquefois. Un mouvement circulaire, un tourbillon. Mais sinon, tu es emporté au ciel. Ce mouvement vertical, puis l'oblique. Que tu reçois un coup. Ouais. Mystiquement, quand l'application surnaturelle de la présence totale de Dieu, c'est-à-dire elle va traverser et non seulement ton esprit, mais aussi toute ta intériorité et ton corps, va utiliser cette structure du centrifuge, du centripète, du circulaire. Donc on va regarder tout à l'heure, la prochaine fois c'est je ne sais pas quand, c'est cet après-midi. Donc on va regarder cet après-midi, on va retrouver, je m'excuse, on va retrouver ça, parce que la conscience d'amour, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, retrouver tout le temps, intérieurement et profondément, la présence paternelle de Dieu. Bon, la conscience de raison, c'est quand on commence à... La conscience de raison, c'est quand on commence à voir clairement cette présence, à la voir clairement, et... Ça passe à la conscience sensible, parce que du coup, la conscience sensible fait passer ça jusque dans le point de vue des sens externes, et du coup, je suis, du coup, ici. Alors, le sens externe, on va le mettre comme ça. Voilà. Et du coup, je suis en relation réelle. La conscience sensible, c'est celle qui me met en relation. Et pour ça, vous voyez bien qu'il faut que je puisse être très réceptif, très amoureux. Alors, avec la présence de Dieu et avec le fait que je revive, il y a un grand mouvement circulaire qui se fait. Je bouillonne, si vous préférez. Il y a un bouillonnement qui s'opère. Et ce bouillonnement me permet de regarder l'autre d'une manière véritable, d'une manière concrète. Et je retrouve une relation de filiation, de paternité et de maternité. C'est pour ça que je reçois l'Eucharistie extérieurement. C'est pour ça que tous les sacrements sont des signes visibles, sensibles et efficaces. Vous voyez ? Parce qu'ils vont remettre en relation. Et pour ça, il faut bien sûr qu'il y ait une revivification intérieure pour que ce mouvement circulaire... Vous voyez, ça, c'est quelque chose de très important, de comprendre qu'il faut retrouver cette... Qu'est-ce qui donne cette énergie à cette vitalité intérieure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut retrouver dans l'aspect fondamental du corps cette présence originelle de celui qui vivifie ma cellule dans une identité totale, une ressemblance, une image, ressemblance, je suis ressemblant à la très sainte Trinité, je suis ressemblant à Dieu plus qu'à mes propres parents. Et ça, c'est dans le corps que je dois ressentir. Et ça, ça doit illuminer toutes mes cellules de l'intérieur même de ces cellules, n'est-ce pas? Ça, c'est clair, ça. La memoria tei, c'est ça qui me donne cette force. Et c'est j'en reprends conscience. J'en reprends conscience, corps, âme et esprit. Et du coup, je peux regarder. Je peux être en relation avec les autres. C'est ça ce mouvement circulaire, vous voyez. Ça c'est un mouvement circulaire. Ce passage par l'amour, par cette vitalisation, cette filiation, par cette spiritualisation, par cette vivification, par cette illumination, vous voyez, intérieure, ça, ce mouvement circulaire reprend et du coup, ma conscience sensible est à nouveau vivante, elle est à nouveau... Elle est sortie de l'inhibition et je suis en relation. Je suis, alors à ce moment-là, la relation de paternité, d'identité et de maternité, de fécondité, de filiation sont ici. Sont inscrits dans la conscience sensible. Voilà, ça c'est le champ de bataille. Hein. C'est le champ de bataille de nos relations blessées. Ça c'est, quand ça marche très très bien, c'est comme ça. Mais seulement, il y a eu le péché originel, il y a eu plein de trucs, il y a eu toutes nos misères, il y a eu l'univers, bon, et nous, mécanisme de défense, je ne veux pas recevoir ça, à la télé c'est dégoûtant, etc. Donc vous voyez, tout ça, tous ces phénomènes-là qui est extraordinaire, vous vous rendez compte, une vie entière comme ça, tout le temps, c'est formidable, c'est génial, vous vous rendez compte cet amour, cette lumière, cette union, cette progression, cette croissance, cette sainteté. À chaque fois au centuple, tout le temps au centuple, c'est fou. C'était vraiment merveilleux, c'est extraordinaire. Jésus, il a bien pensé son machin quand il nous a créé, n'est-ce pas? Bon. Enfin, Et tout ça, ça marche pas très bien, n'est-ce pas? Bien sûr, justement. Parce que le mensonge a pénétré par l'imagination, ça c'est, on l'a déjà vu plusieurs fois, et du coup c'est l'imaginaire qui devient la locomotive de notre vie intérieure, et comme l'imaginaire devient la locomotive de notre vie intérieure, vous voyez, tout ce problème, c'est la folle du logis, on sort du réel, et on rentre dans l'illusion. Voilà dans lequel on est, dans quel état on est, donc il va falloir qu'on retrouve... Et en rentrant dans l'illusion et dans l'imaginaire, évidemment, on échappe à la relation. On ne veut plus être fils, on ne veut plus être père, on ne veut plus être mère. Donc il va falloir retrouver tout ça, et c'est de retrouver cette relation. Bon, donc tout à l'heure, cet après-midi, on va essayer de regarder un petit peu comment fonctionne cette conscience sensible, puisque cette conscience sensible, c'est elle qui enracine toutes ces relations, parce qu'il va falloir qu'on puisse retrouver justement assez facilement, en y pensant, en se remettant dans notre corps, c'est-à-dire dans les bras du Père, et il va falloir retrouver le lieu où on peut revivre, comme homme, comme fils, comme enfant, comme responsable, comme ayant autorité, comme étant source. Donc on va regarder quelques petites choses sur la conscience sensible, et puis après on va essayer de regarder quelques petits points sur la vocation propre donc de l'homme, la vocation propre de la femme, la vocation propre de l'enfant.